Radio Okapi.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal sur Radio Okapi. Voici les informations clés de ce jour. Reprise des négociations à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Cependant, il reste difficile de déterminer précisément les débuts des négociations directes et le format adopté par la médiation qatarienne qui n'a fait aucune déclaration officielle. Pendant ces temps sur le terrain, les affrontements se poursuivent au Kivu. Les pluies torrentielles de la semaine dernière ont provoqué bien plus que des inondations à Kinshasa. Sur les collines, les érosions se sont intensifiées et des nouvelles fissures sont apparues. Certains habitants ont perdu des parcelles entières et partielles. RDC, plus de 300 cas de poliomyélite enregistrés en 2023 et 2024. Et entre janvier et mars 2025, un cas de polio a été identifié à Kinshasa sur le site de Pakajuma. Docteur Elisabeth Mukamba, coordinatrice du comité d'urgence polio, détaille les efforts de lutte dans une interview exclusive sur Radio Okapi. C'est tout pour les titres. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Les négociations entre le gouvernement congolais et le représentant de l'AFC M23 ont repris le mercredi dernier à Doha, au Qatar. Cette deuxième phase fait suite à celle de la semaine dernière. Cependant, il reste difficile de déterminer précisément les débuts des négociations directes et le format adopté par la médiation qatarienne qui n'a fait aucune déclaration officielle. Pendant ces temps, les affrontements continuent dans le nord et le sud Kivu entre les FARDC soutenu par les Wazalendo et l'AFC M23 appuyé par le Rwanda. Les détails avec notre reporter Martial Papi Mukeba.
Au site Kivu, les combats se poursuivent depuis ce matin autour de l'Emera dans Kalehe et près de l'aéroport de Kavumu à une vingtaine de kilomètres de Bukavu. Dans les territoires de Kalehe, les Wazalendo ont repris une dizaine de localités dont Chanje, Bushaku 1 et D et Nyawarunga. Selon nos sources, ces offensives entre Bukavu et Uvira ont été lancées après que l'AFC M23 a dégarni certaines positions pour préparer les redéploiements de ses combattants en d'une offensive sur deux autres grandes villes de l'est du pays. Au nord Kivu, l'AFC M23 occupe depuis deux jours sept villages dans les sites de Lubero selon des sources locales. Walika le centre, chef-lieu du territoire et des garnis, et les FRDC ainsi que les Wazalendo contrôlent à nouveau la cité. Les rebelles se concentrent sur Masisi centre où des accrochages sporadiques sont signalés. Les Wazalendo en périphérie mènent des offensives pour déloger les rebelles sans succès. La rébellion dénonce dans un communiqué une violation du cessez-le-feu par les gouvernements congolais. Certaines sources craignent une reprise des combats violents si un cessez-le-feu bilatéral n'est pas signé entre les gouvernements et l'AFC M23 malgré les discussions en cours à Doha. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nord Kivu, les activités socio-économiques reprennent progressivement malgré les défis sécuritaires et financiers persistants dans les zones occupées, du petit commerce notamment, l'approvisionnement en produits vivriers et manufacturés à la production locale et à l'import-export. Une certaine résilience est observée dans le secteur économique, selon plusieurs témoignages. La paralysie du système bancaire est citée par tous comme la principale difficulté empêchant le redémarrage des activités. Le détail avec Jacques-Yves Molima.
Dans les secteurs de la production locale, par exemple, les entrepreneurs témoignent que plusieurs petites et moyennes industries ont repris les activités, notamment dans les domaines des services, de l'agroalimentaire et autres. C'est là grâce, entre autres, au rétablissement du courant électrique, explique-t-il. Actuellement, la situation évolue progressivement, affirment certains entrepreneurs, bien que l'absence de liquidité reste un frein majeur. Pour contourner ces défis, les opérateurs économiques vont s'approvisionner en liquide, soit à Beni, au Rwanda, en Ouganda et même en Tanzanie. Autre moyen qui se développe localement, c'est l'utilisation du système électronique, notamment les Mobile Money. Les entrepreneurs affirment qu'ils parviennent à payer leurs fournisseurs en ligne afin de se procurer des matières premières et résoudre d'autres charges. Toutefois, il s'observe une fluidité des activités commerciales, mais les opérateurs parlent d'une baisse sensible du nombre des consommateurs ainsi que du taux de vente. Ils expliquent cela d'une part par le retour massif de milliers de déplacés de guerre dans leur village d'origine. La présence de ces derniers à Goma et autour constitue en quelque sorte une opportunité d'affaires, à savoir qu'une importante quantité d'assistance humanitaire était achetée auprès des producteurs locaux. Les entrepreneurs évoquent aussi la suspension de plusieurs barrières illégales, ce qui a mis fin aux tracasseries, facilitant ainsi les opérateurs économiques.
En Ituri, la présence des rebelles ADF dans plusieurs entités du territoire de Mambasa inquiète les acteurs de la société civile. Ces derniers craignent une pénurie de certains produits sur le marché. Selon ces activistes, de nombreux agriculteurs ont abandonné leurs champs en raison de l'insécurité, une situation qui affecte également les exploitants artisanaux d'or. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La présence de ces rebelles des ADF est signalée dans les chefferies de Babila Kwanza, Babila Babombi et tout récemment dans la chefferie de Mambasa. Ils investissent des carrés miniers où se retrouvent aussi des vastes étendues de champs, ce qui risque d'impacter négativement sur la vie socio-économique de la population. Marie-Noël Anotane est coordinatrice territoriale de la société civile du Congo.
Les ravitaillements en nourriture, ça devient un problème. C'est quoi ravitailler le territoire de Mambasa, surtout au niveau du centre, mais aussi le territoire de Beni, parce qu'il y a des voitures qui quittent Mambasa, bien chargées de foufou, de manioc, de biens de première nécessité. Il y a risque qu'il y ait augmentation des prix. Celles qui font les champs ont leurs enfants. C'est le travail des champs qui fait polariser ces enfants et nourrir ses enfants. Les orpailleurs ou les opérateurs miniers, ils vivent de ce travail-là d'orpaillage. Ça devient déjà un manque à gagner parce qu'il n'y aura pas circulation de l'argent.
Des voix s'élèvent de plus en plus pour demander aux autorités militaires d'élargir les opérations de traque de rebelles des ADF dans d'autres régions où ils se sont déplacés. L'autorité territoriale rassure que des efforts sont fournis pour sécuriser la population.
Bounia, Jean-Claude Loki, dit-les. Radio Okapi.
Direction le Lualaba, l'administrateur du territoire de Sandoa, Jean-Augustin Tujika, tire la sonnette d'alarme concernant les abus des militaires récemment déployés dans le Lualaba. Il les accuse d'utiliser leurs armes sans raison, s'en prenant non seulement à la population, mais aussi à certains policiers blessés à coups de poignard. Il demande leur redéploiement ailleurs. Écoutons Jean-Augustin Tujika, administrateur du territoire de Sandoa, joint par Jean Gandou.
Nous déplorons le comportement des éléments FRDC nouvellement affectés dans les territoires qui posent des actes irrespectueux envers la paisible population de Sandoa. Ils tirent les balles quand ils veulent, ils tabassent quand ils veulent. Donc, ils sont en train de violenter la population de manière que je ne peux pas accepter. Nous sommes dans un milieu rural, on n'a pas besoin d'entendre des balles crépiter à tout moment, n'importe quand, n'importe où. Ils sont arrivés à empoignarder deux éléments de la police, de la LENI. C'est pas une bonne chose. En tout cas, je déplore ce comportement. Si on peut nous retirer ces éléments-là, ça nous fera du bien. Passé à un village situé à 32 km du chef-lieu, sur la route d'Ilolo, la RN39, ils ont tabassé des jeunes gens qui venaient au deuil en provenance de d'Ilolo. Ils les ont tabassés jusqu'à tirer encore des balles. La semaine passée, ils ont tabassé un garçon jusqu'à lui administrer un poignard dans la bouche. Les deux policiers qui avaient été empoignardés en date du 20 mars se retrouvent encore aux soins médicaux. Je ne sais pas encore leur sort. Ça n'est de trop. Je suis monté au créneau pour dénoncer ce genre de situation.
En réaction, le commandant de la 22e région militaire dont dépendent ces militaires indique qu'il a dépêché une équipe sur place pour s'enquérir de la situation. Le général de brigade Idi Kapande dit toutefois qu'il s'agit des actes isolés de quelques militaires. Il promet de sanctionner sévère aux coupables. À Kinshasa, six hauts magistrats de forces armées de la RDC ont reçu hier jeudi leur notification officielle de main du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Kalombo à Kinshasa. Cette notification marque leur prise de fonction. Le ministre de la Défense a exhorté ses juges militaires à appliquer la loi de manière rigoureuse, impartiale et conformément au code de justice militaire. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans sa prise de parole, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a rappelé l'importance du rôle des magistrats militaires dans ces contextes sécuritaires tendus. Guy Kabombo Mwanyamvita a ainsi réaffirmé, au nom du chef de l'État et des magistrats suprêmes, la volonté du gouvernement congolais de mettre fin à l'impunité et de faire de la justice un pilier de discipline et d'intégrité au sein des troupes.
L'attitude des militaires au front exige de vous des actes de coercition. Vous êtes donc appelé à dire le droit en vous appuyant sur le code de justice militaire.
Ces hauts magistrats ont remercié le président de la République pour la confiance placée en eux et ont promis d'accomplir leurs devoirs avec loyauté, sérénité et détermination en étant les gardiens inflexibles de l'ordre et de la loi.
Il s'agit de prendre un engagement ferme, un engagement de loyauté envers le chef de l'État, de servir avec dévouement, abnégation, dans le cadre de nos services, en exerçant nos fonctions respectives.
Instrument clé du redressement éthique et disciplinaire des forces armées, la justice militaire est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'assainissement du secteur de la défense et de sécurité.
Je le disais dans le titre, les fortes pluies de la semaine dernière ont causé plus que des inondations à Kinshasa. Sur les collines, les érosions se sont aggravées et de nouvelles fissures sont apparues, notamment dans les quartiers Ngomba Kikusa, près de Lupen, dans la commune de Ngaliema. Certains habitants ont perdu des parcelles entières ou partielles. Des sections d'avenues ont disparu. Après ces pluies, chacun tente de s'organiser pour protéger son lopin de terre, mais tous estiment que c'est une cause presque perdue sans aide pour bien canaliser les eaux. Reportage Triomphe Banzé, Benjamin Moudoumbi et Étienne Lissombo.
Dans ce coin de la capitale, nous trouvons plusieurs habitations entourées devant et derrière par des érosions. Ce sont des érosions de 10 et 20 mètres, déversant dans une vallée à hauteur de plus ou moins de 100 mètres de profondeur. Devant cette vallée se trouvent plusieurs familles et les enfants y jouent sans tenir compte du danger. Les dernières pluies n'ont fait qu'aggraver les choses, déplore cette habitante.
La pluie a fait des dégâts importants, l'eau a débordé et emporté des parcelles. Une dame est même décédée. L'érosion s'est agrandie sur trois avenues, Kimayala, Droit de l'Homme et Kinsaka. Ce sont des démunis qui vivent ici. Ils sont là parce qu'ils ne savent où aller.
Pour le moment, chacun essaie de sauver tant soit peu son habitation.
Nous essayons de protéger les sols avec ces sacs remplis de terre. Là, nous fixons des pieux en bambou pour le maintenir, pour éviter des glissements de terre s'il pleuvait encore.
Pour cet autre habitant, le problème est lié au manque des caniveaux et des avenues.
Nous avons ces avenues-là qui ne mesurent même pas 3 mètres. Ça veut dire qu'ici, il n'y a qu'une personne de cadastre que l'État puisse structurer.
Tous lancent un SOS aux autorités pour la construction rapide des caniveaux afin d'épargner ses habitants du danger qui les guette.
Les peuples autochtones pygmées, gardiens du patrimoine forestier du bassin du Congo, réclament une place au sein du gouvernement d'Union nationale annoncé par le président de la République. Ils dénoncent le manque de consultation de cette partie de la population par les autorités pour la formation du nouveau gouvernement. Ils lancent un appel à la communauté internationale, aux organisations de la société civile, aux institutions de droits de l'homme pour soutenir leur lutte pour la justice et la reconnaissance de leur dignité en tant que Congolais. Richard Bokatola, porte-parole des peuples autochtones pygmées, explique l'objet de leur déclaration dans cet entretien avec Étienne Lissombo.
Nous dénonçons la marginalisation systématique contre le peuple autochtone pygmé de la RD Congo. Nous sommes des gardiens du bassin du Congo, mais depuis que notre pays a acquis à l'indépendance, nous, peuple autochtone pygmé, nous n'avons jamais participé dans des dialogues, alors que nous sommes des citoyens congolais comme tout autre citoyen. L'écart récent ici des dialogues qui a conféré pour solliciter que nous soyons aussi consultés comme d'autres couches social quoi. Mais malheureusement jusque là, c'est ainsi que nous sollicitons la bonne volonté du conseil spécial en matière de changement de sécurité, qui en est la responsabilité et chargé de consultation, de répondre favorablement à notre demande d'être consulté, car nous avons des choses, nous avons des secrets de la nature, comme garder du patrimoine, qu'on peut aussi contribuer dans tous les domaines de la vie, comme tout autre citoyen congolais. Il est important que nous, peuple autochtone pygmée, puissions participer à la gestion de la chose publique.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Dans les territoires de Beni au Nord Kivu, la société civile du groupement Basongora dénonce la prolifération des maisons de vente de boissons alcoolisées près des écoles à Kassindi, Lubiria, à 90 km de Beni, selon son coordonnateur Denis Kalinga. Cette pratique nuit à la formation des élèves, dont certains se livrent à la consommation de ces boissons. Il appelle les autorités nationales et provinciales à prendre des mesures pour y mettre fin et poursuivre les responsables. Denis Kalinga est joint au téléphone par André Kitenge.
Nous avions constaté que certains parents commencent maintenant par procéder à l'ouverture de maisons de commerce de boissons fortement alcoolisées. Nous déplorons avec énergie l'irresponsabilité de ces parents qui, au lieu de les ouvrir ailleurs, ils les ouvrent aux environs des écoles, ce qui donne raison aux enfants, au lieu de se concentrer aux études, commencer d'abord par passer dans ces maisons de consommation de boissons et aller à l'école après en avoir pris un verre et une bouteille. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler les autorités, que ce soit sur le niveau provincial, que ce soit sur le niveau local, à réfléchir sur la question de neutraliser toutes les maisons de commerce de boissons fortement alcoolisées aux environs des écoles pour sauver notre jeunesse, que le gouvernement, que les autorités locales nous accompagnent dans ce sens, afin de pouvoir mettre fin à cette pratique et traquer définitivement toutes ces personnes.
Actualité internationale.
L'ONU a dénoncé vendredi 11 avril l'impact sur les civils des frappes israéliennes ces dernières semaines sur la bande de Gaza. Entre le 18 mars et 9 avril 2025, il y a eu environ 224 frappes israéliennes sur des immeubles résidentiels et des tentes pour les déplacer, a indiqué le Haut Commissariat aux droits de l'homme dans un communiqué, ajoutant que pour 36 frappes répertoriées et corroborées par le Haut Commissariat, les victimes étaient uniquement des femmes et des enfants jusqu'à présent.
L'invité.
En 2023 et 2024, 308 cas de polio ont été enregistrés en RDC, selon le docteur Elisabeth Mukamba, coordinatrice du comité d'urgence polio. Des efforts considérables ont été déployés dans la lutte contre la polio. Entre janvier et mars 2025, un cas de polio a été identifié à Kinshasa sur le site des Pakajuma, ce qui a motivé l'organisation d'une campagne de vaccination contre la polio dans 6 provinces de la RDC du 10 au 12 avril 2025. Docteur Elisabeth Mukamba, s'entretient avec Stanislas Djoumi.
Docteur Elisabeth Mukamba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du comité d'urgence au polio. Alors, le lancement de la campagne de vaccination contre la polio débute déjà ce 10 avril à Kinshasa et dans les 6 autres provinces. Alors, de façon générale, comment se présente la situation de la polio en RDC pour le moment et pourquoi avoir lancé la campagne de vaccination contre la polio en ce moment?
Merci beaucoup. Pour vous faire juste un aperçu de la situation de la poliomyélite en RDC, je peux juste vous donner les chiffres sur les 2 dernières années. En 2023, après la grosse épidémie et le gros pic que nous avons connu en 2022. En 2023, le pays a enregistré un total de 281 cas de polio. Ce sont des poliovariants, il faut le signaler. Et les efforts menés tout au long de l'année 2024 ont permis de réduire de plus de 90% le nombre de cas de poliovariants. Et le pays a totalisé 27 cas. C'est pour vous dire que des efforts énormes ont été consentis. Et pour 2025, partant du mois de janvier au mois de mars, sur les semaines épidémiologiques, il y a un cas de poliovirus qui a été isolé dans l'environnement parce que le pays a mis en place, à côté de la surveillance de la poliomyélite au travers des enfants qui sont atteints de paralysie flasque, le pays met en œuvre la surveillance environnementale en prélevant les eaux usées dans certains sites de collecte. Et un cas a été notifié ici à Kinshasa, au site de Pakajuma, ce qui est une indication pour organiser une riposte autour de ce cas de polio, parce que certainement qu'il y a une infection dans la communauté qui peut-être est passée inaperçue, mais il faut effectivement répondre de manière efficace pour arrêter la circulation de ces polios.
Et alors, quelles sont les provinces concernées par cette campagne et quelle tranche d'âge avez-vous retenu?
Alors, il faut noter que nous avons deux groupes de provinces. Cette subdivision en deux groupes de provinces est dictée orientée par l'épidémiologie. Nous avons les provinces du sud-est, donc le Haut-Katanga, Oulomami, Tanganyika, qui est Kinshasa, où le virus variant de type 2 avait été isolé. Et de ce fait, on utilisera le NOPV2, c'est toujours un vaccin contre la polio, un vaccin oral, mais qui cible cette souche-là qui a été identifiée. Maintenant, nous avons aussi à faire face à un virus variant de type 1 dans la province de la Tshopo. Ce cas a été confirmé chez un enfant de plus de 10 ans. Et de ce fait, l'analyse de risque a été faite pour vacciner dans la province de la Tshopo, donc les zones de santé environnantes au foyer, donc c'est la zone de santé de Loa, toutes les 23 zones de santé de la Tshopo, mais aussi 6 zones de santé de la province du Maniema. Ce qui fait que, étant donné que la cible est au-delà de la cible habituelle que nous vaccinons, les 0 à 5 ans. Et pour répondre efficacement à cette menace des plus de 10 ans, dans ces deux provinces, donc Nord Kivu et Maniema, c'est le vaccin polio oral, le BioPV avec la souche 1 et 3, qui sera administré aux enfants de 0 à 15 ans.
Alors à Kinshasa, on commence déjà le 10 et c'est jusqu'au 12 avril. Mm-hmm. Et le mois de mai, ça va commencer de quelle date à quelle date?
Alors, nous prévoyons pour le mois de mai organiser la campagne entre le 15 et le 17 mai.
Quel message pouvez-vous lancer à tous les parents qui doivent faire vacciner leurs enfants pendant cette campagne de vaccination contre la polio?
Nous lançons cet appel pour que ce partenariat ne soit pas brisé, que les parents autorise la vaccination des enfants, ouvre à nouveau les portes pour que les enfants soient vaccinés, de manière à ce que nous arrivons vraiment d'ici les 2-3 prochaines années à effectivement dire qu'on a arrêté la circulation du poliovirus en RDC.
Docteur Elisabeth Mukamba, je rappelle que vous êtes coordonnatrice du comité d'urgence polio en RDC. La Radio Capu vous dit merci d'avoir répondu à son invitation.
Merci.
Nous arrivons à la fin de notre journal. Mise en nom par Polydor Basunga. Coordination et supervision par Jude, Mister Bilonda et Jacques-Yves Molima. Présentation par Gisèle Cage. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous invitons à rester à l'écoute de nos programmes et à continuer de vous informer avec nous. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. En attendant, prenez soin de vous.